Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Nous sommes le 22 décembre 2017. Au micro, on retrouve Corentin et Laurent et Claude aux manettes. Donc ce soir, l'émission questionne notre relation à la ville, à l'espace urbain, à la rue. Nous, citoyens, quelle est notre place dans l'espace urbain? Quelle place nous a-t-on donnée? Quelle place prenons-nous? Quelles en sont les règles formelles ou informelles, dites et non dites? Et nous, finalement, quelle est aussi notre place dans la définition de ces règles? Mais quand je dis nous, c'est une facilité, puisque en fait ce nous, c'est une réalité multiple. Nous sommes enfants, vieillards, jeunes, handicapés, non-voyants, hommes, femmes, non-motorisés, motorisés, etc. Et donc l'espace urbain ne nous est pas accessible de la même façon. Et les usages que l'on souhaite faire de cet espace urbain sont multiples également. Nous y sommes promeneurs, flâneurs, voyageurs. Nous voulons y jouer au ballon, à cache-cache, nous y déplacer facilement, y jouer de la musique, y trouver refuge si besoin, y jardiner ou contempler tout simplement. Donc les usages ont potentiellement pour seule limite notre imagination. Mais la ville telle qu'elle est conçue nous le permet-il vraiment? La ville est-elle vraiment faite pour tous? Donc pour discuter de ce sujet multiple et multidimensionnel, nous recevons deux invités, et même trois, qui chacun à leur manière réfléchissent, travaillent, pensent sur le rapport du citoyen à la ville dans deux univers distincts. Donc Muriel Froment-Meurice, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous avez rédigé donc une thèse qui s'intitule « Produire et réguler les espaces publics contemporains, les politiques de gestion de l'indésirabilité à Paris », en co-tutelle donc entre l'Université de Paris-Est et l'Université de Genève. Vous faites partie du Lab Urba et du groupe transversal GEDAI, Justice, Espace, Discrimination, Inégalité, dont vous nous direz quelques mots tout à l'heure. Et puis, on a également donc Gwen Lebars de la Compagnie du Coin au téléphone.
Bonsoir.
Bonsoir Gwen.
Salut Gwen.
Salut Muriel.
Donc, alors la Compagnie du Coin est un collectif de musiciens qui partagent un sens de la curiosité, un goût pour les mélanges des genres et des disciplines, une recherche qui les mène à s'envisager musiciens, acteurs ou instrumentistes, danseurs, passionnés d'improvisation, artisans obstinés de rigueur musicale et bon vivant. C'est bien ça? C'est bien ça, Gwen? J'ai bien...
Tout à fait ça, ouais.
Et donc, on reçoit également Malika.
Oui, l'imprévu, qui se sert de l'art comme un moyen qui nous aide à abattre les murs, ouvrir les portes, installer les fenêtres pour nous faire naître et continuer d'être, afin de balayer nos peurs qui ne sont que des grains de terrain de guerre. C'est pas parce que l'art et la culture dans sa diversité nous offrent du plaisir que c'est un péché ou un luxe, c'est aussi vital que l'eau qu'on boit et l'air qu'on respire.
Super, mais vous pourrez donc également réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin sur RFPP ou la podcaster, comme toutes les précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic et celui de Mode d'emploi. Donc, pour débuter, peut-être, on va commencer par toi, Muriel. Peut-être que tu peux nous présenter l'univers dans lequel tu interviens, le GEDAI et puis le lab.
Oui, alors moi, je suis géographe, donc j'ai fait une thèse en géographie sociale. Et donc, je travaille au sein du Lab Urba, qui est un labo qui travaille essentiellement sur les espaces urbains. Et surtout sur les politiques publiques, sur les analyses des politiques publiques. Moi, je m'inscris surtout dans cet axe-là. Et le groupe transversal GEDAI, qui donc réunit des gens de différents laboratoires de l'université Paris-Est. Le Lab Urba est aussi ACP, analyse comparée des pouvoirs, et où on a à la fois des urbanistes, des sociologues, des géographes, et on réfléchit ensemble aux rapports de domination et aux inégalités, et à la manière dont ils se matérialisent et sont reproduits à travers les espaces urbains.
Et ça se concrétise comment, vos réflexions? Donc il y a des rapports qui sont produits?
Oui, alors on a à la fois des projets collectifs, par exemple... pour le PUCA, hein, donc des choses assez institutionnelles.
Alors le PUCA, pour nos auditeurs.
Oui, c'est le plan d'urbanisme et c'est rattaché au ministère du Logement et donc il finance beaucoup de recherches. Et donc par exemple là, on avait eu une recherche sur ce qu'ils ont appelé les quartiers tremplins. Donc dans des quartiers principalement politiques de la ville, plutôt des quartiers défavorisés, où on a travaillé justement sur le tissu associatif, notamment, et les résistances en fait des habitants dans ces quartiers à la manière dont ils produisaient la ville quotidiennement. Et puis on fait aussi beaucoup des journées d'études ou des colloques qui nous permettent un peu de valoriser nos recherches. Et donc la dernière, par exemple, en date, était sur les squats de migrants. On a reçu quatre auteurs qui ont participé à un livre collectif. Et donc, on s'inscrit aussi souvent dans des questions un peu d'actualité. On a eu une journée sur les mobilisations des classes populaires. Et c'est une des vocations, je pense, du groupe de prendre position sur des questions d'actualité aussi. Même si on a des gens qui travaillent aussi sur la dimension historique, on est très attachés à ce rôle des chercheurs dans la société.
Très bien. Merci. Et Gwen, peut-être une présentation de la Compagnie du Coin, des spectacles que vous avez produits et puis peut-être des projets en cours.
Ouais, alors vous m'entendez bien déjà ?
Ouais, super.
Parfaitement.
Très bien.
On entend même tout ce qui se passe.
Bon alors, parfait. Du coup, nous, en fait, c'est un collectif qui est né d'abord de musiciens improvisateurs, plutôt issus du jazz, de la musique free. Et la fanfare est née un peu pour un accident, comme souvent les groupes naissent, pour célébrer un bout de spectacle, une entrée du public, en 99. Et puis suite à ça, ils ont décidé de continuer, et on a commencé à s'attacher au folklore des harmonies municipales, qui nous est assez cher, puisque c'est vraiment un creuset un peu traditionnel de la musique en France, intergénérationnel, les familles jouent ensemble et tout ça. Mmh. Et, alors pas seulement rural, mais beaucoup rural quand même à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est un public qu'on a énormément fréquenté et on a commencé à jouer avec ce folklore-là, sans jamais s'en moquer, j'insiste, hein, parce que c'est quand même important. Mais par contre, en prenant un peu les codes et les quelques vieilleries parfois, le côté républicain, le côté parfois assez masculin aussi. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à s'intéresser à l'improvisation dans la rue. Et puis c'est devenu après une vocation, quoi, au fil des années... Moi, aujourd'hui, je fais quasiment plus que de la musique dans la rue. Et donc, voilà, toutes ces questions d'espace public, de quelle place est la nôtre là-dedans, sont évidemment centrales maintenant, quoi.
D'accord. Et alors, peut-être pour Muriel, vous, comment vous êtes venu à ce sujet qui est l'espace urbain ? Est-ce que c'est quelque chose qui... vous a toujours questionné ou quel est le processus un peu ?
Alors, pour reprendre mon parcours de recherche, moi j'ai commencé à vouloir travailler avec les personnes sans logement dans les espaces publics suite à un engagement associatif important, notamment sur un des sites d'une association des Restos du Cœur sur la place de la République où j'ai été engagée plusieurs années. Donc j'avais envie de faire croiser mes questions de recherche et puis mon engagement quotidien en tant que citoyenne, donc j'ai commencé à travailler avec ces personnes et ça posait beaucoup de difficultés éthiques, pratiques. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que plutôt qu'une analyse sur les exclus, ce que j'avais envie de produire, c'était une analyse des processus d'exclusion, c'est-à-dire de retourner un petit peu le regard et de se demander qu'est-ce qui conduit, quelles sont les politiques qui finalement conduisent tant de personnes à habiter dans la rue aujourd'hui à Paris. Et c'est ce que j'ai fait en thèse, donc en faisant une thèse sur les producteurs et gestionnaires d'espaces publics. Donc si ma thèse, elle est bien sur les groupes qu'on dit indésirables, j'ai travaillé non pas avec ces groupes, mais sur la manière dont on les produit comme indésirables et donc sur des groupes d'acteurs plutôt institutionnels, donc notamment la mairie de Paris, parce que j'ai travaillé sur Paris, et puis aussi la RATP, la SNCF, et sur tous les dispositifs en fait qu'ils produisent et qui rendent certaines personnes indésirables dans les espaces publics.
Quand on parle de produire un espace, quels sont, parce qu'on met une forme, on ne met pas vraiment des gens derrière, qui sont ces gens qui produisent des espaces publics, parce qu'ils sont de nature diverse. On a commencé à en évoquer quelques-uns. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette panoplie de producteurs ?
Bah alors en plus, cette panoplie, elle s'est largement diversifiée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les espaces publics, c'est vraiment devenu un sujet central pour les urbanistes, pour les élus, pour toute une série de personnes, en fait, qui fait que les gens qui sont amenés à s'occuper des espaces publics sont beaucoup plus larges que juste des architectes, des urbanistes. On a aussi aujourd'hui des scénographes, on a aujourd'hui aussi des spécialistes des dispositifs de participation, on a aussi des médiateurs, hein, des travailleurs sociaux, des policiers, évidemment. Et finalement, moi, je me suis intéressée à ces acteurs dans leur diversité pour voir les différents conflits qu'éventuellement il pouvait y avoir dans leur conception de ce que doit être un bon espace public. Et je me suis intéressée plus particulièrement à des groupes d'acteurs qu'on voit moins dans les études, qui sont ce qu'on appelle des acteurs intermédiaires, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément, a priori, un pouvoir décisionnel, mais qui sont des acteurs importants. Donc, par exemple, c'est des responsables de sections territoriales de voirie, c'est des chefs d'équipe de correspondants de nuit, c'est des responsables de secteur, et finalement, tous ces acteurs, ils ont des marges d'action, hein, qui sont importantes. Et donc, moi, j'ai cherché à voir, en fait, qu'est-ce qui, chez ces acteurs, renforçait ou pouvait atténuer, au contraire, des lignes générales dans la production répressive des espaces publics.
Et alors, peut-être pour nous donner un exemple, comment ça se... Alors, on va pas refaire toute la thèse, parce que c'est un travail considérable, mais néanmoins, peut-être en illustrant.
Oui. Alors, moi, j'ai travaillé sur trois dispositifs, principalement. Donc, le mobilier urbain, qui est un sujet qui aujourd'hui est quand même, il me semble, un peu porté, hein, dans la presse. On a vu des articles contre le mobilier dissuasif. Donc c'est par exemple un banc au milieu duquel on met un accoudoir pour pas que les gens puissent s'allonger. Donc ça, c'est très visible. Il y a eu là récemment quelque chose sur les douches anti-SDF. Mais il y a aussi beaucoup de choses très anodines, alors plus ou moins explicites. Par exemple, le fait de mettre des pics sur certains recoins ou devant les entrées d'immeubles, mais ça peut être aussi des aménagements paysagers, et là c'est beaucoup plus difficile à repérer, c'est-à-dire ça va être justement, on va mettre des fleurs pour empêcher les gens de dormir. Donc en même temps on décore, on rend beau les espaces publics, et en même temps ces processus d'embellissement, ils ont une fonction qui est moins explicitement dite, qui est celle d'exclure les plus pauvres des espaces urbains.
Et de votre côté Gwenaëlle, est-ce que cet aménagement urbain a Et du coup, est-ce que cet aménagement urbain a des impacts sur votre activité? Et ce qu'on vient de voir, comment ça vous impacte au quotidien? Qu'est-ce qui vous apporte des choses? Qu'est-ce qui vous nuit dans... Alors, je sais pas, on se posait la question avant l'émission, est-ce qu'on doit parler d'espace urbain, de ville, mais en tout cas de cet ensemble-là?
Moi, je dirais l'espace urbain parce que concernant la branche où je travaille, on est amené à travailler aussi dans des petites villes, quasi la campagne et tout ça, et ça reste quand même de l'espace urbain puisqu'il y a de l'aménagement, il y a des places publiques qui restent des places publiques aimables et accueillantes ou qui deviennent moins parce que justement il y a des aménagements qui changent. Nous, c'est vrai que ça devient plutôt un terrain de jeu et on s'initie depuis un an ou deux à vraiment jouer alors non seulement avec le mobilier qui est à terre, donc celui qu'on peut constater, sur lequel on peut grimper tout de suite, sur lequel qu'on peut exploiter comme ça, mais aussi les lignes d'architecture, les grandes lignes de fuite des espaces et tout ça, et puis l'environnement de circulation, quoi, les voitures et tout ça. Et je dirais que pour l'instant, on s'aperçoit que la voiture déjà prend une énorme place quand on fait du son dans la rue, quand on essaye d'exploiter ce truc-là. La bagnole est quand même archi présente. C'est pas nouveau, mais voilà. Après nous, est-ce que ça peut nous gêner? Je sais pas. C'est pas tellement dans l'aménagement comme il est fait à la fin, c'est plutôt en tant que citoyen que ça peut nous questionner pour tout ce que vient de dire Muriel auparavant. Et puis peut-être maintenant, ça va être plus concrètement dans le milieu du spectacle de rue, les festivals avec des barrages à l'entrée, des plots en béton partout, qui font que finalement la circulation du public, des gens et puis tout ça devient quand même vachement moins facile et que le public est filtré aussi à l'entrée des villes, quoi. Donc c'est plutôt ça qui va créer un climat un peu spécial concrètement pour nous. En tout cas.
Et du coup, c'est ce que vous dites en fait, c'est que c'est un espace qu'il faut s'approprier et qui offre des opportunités et des risques et qu'il faut maîtriser. C'est ça votre quotidien d'artiste de rue.
Ben je pense parce que nous en fait on fait pas d'installations qui sont amenées à durer. On arrive et puis on repère les espaces et puis ensuite on les habite pendant un petit moment. Et en essayant du coup de plus en plus de prendre conscience qu'il y a eu des choses avant nous, qu'il y en aura après, qu'il y a des gens qui vivent là où on va jouer aussi. Donc ne pas arriver en terrain conquis et puis essayer de se glisser plutôt dans l'environnement existant que de venir en conquérant. Voilà. Et donc là, je sais pas quoi dire, c'est une question qui est un peu vaste en fait quand on appréhende un peu les territoires de jeu à chaque fois de façon un peu nouvelle. Et ensuite, c'est plus selon les contextes urbains dans lesquels on joue que là, on peut vraiment s'apercevoir quoi, de comment ça a été pensé. Parce que maintenant, évidemment, d'avoir lu, par exemple, la thèse de Muriel et puis de travailler avec des improvisateurs dans la rue, on commence à avoir l'œil un peu plus aiguisé aussi sur justement les aménagements et sur qui est là et qui n'est pas là, notamment nous, quand on fait du spectacle. Quoi. Et ensuite, là, c'est vrai que le sujet est vaste. Alors, j'ai peur de m'embarquer après dans des trucs.
Non, mais vous allez juste après. On va faire une première pause musicale et juste après, vous pourrez nous expliquer.
Mot,
oui, ouais.
Juste par rapport à l'espace public, moi, j'ignorais totalement que les rues de Paris étaient une propriété qu'on a. C'est comme
on a délégué
parce qu'avant il y avait des artistes pour créer à l'occasion d'une fête, comme elle appartient à la ville de Paris, la rue, ils pouvaient s'installer sans aucune difficulté à l'occasion pour animer, pour que justement la population se rencontre, faire un peu. Et puis un jour j'apprends, mais à tout hasard, j'ignorais totalement que le passage piéton, il n'appartient, enfin je peux pas bien formuler, mais dans les espaces, il n'appartient pas à la ville de Paris parce qu'elle a loué à quelqu'un qui prend en charge pour balayer, nettoyer, faire des publicités. Et quand ça devient privé, lorsqu'il y a une équipe d'artistes ou autres qui n'ont pas les moyens mais qui sont riches pour pouvoir justement abattre les murs, ouvrir les portes pour que les gens puissent se parler. Et ils n'ont pas besoin d'appartenir à la même classe ou la même couleur de peau ou le même âge, eh ben, leur espace était réduit ou pas du tout. Voilà. C'était quand. Donc, où se situe propriété? L'espace public est-il une propriété privée ou est-il la propriété de notre humanité, enfin de ces citoyens qui l'habitent, enfin.
C'est une question dans laquelle on reviendra sur la deuxième partie. Quel est le rôle du privé sur l'espace public?
Et voilà, et notamment c'est des réflexions que partage Gwen, me semble-t-il. Bon, on va faire une première pause musicale et on va écouter Gasoline the Hardest. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. L'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic est consacrée ce soir à la ville pour tous ou l'espace urbain pour tous, avec un point d'interrogation. On va faire juste un petit point sur l'actualité de la Fondation Copernic. Donc le mercredi 17 janvier 2018, à 18h30, rue de Malte, à Paris, se tient une réunion sur la crise des partis et les nouvelles formes de la politique, avec Sarah Legrain et Roger Martelly. Et le débat sera animé par Louis Weber, qu'on connaît bien ici, puisqu'il est venu plusieurs fois dans l'émission. Sur le site de la Fondation Copernic, vous retrouverez plusieurs notes, et notamment une sur le budget, avec donc cet article « Budget, une logique de rupture » par Henri Villeneau. Je vous invite à vous rendre sur le site de la Fondation Copernic. Donc on va reprendre peut-être avec toi Gwen sur cette perception Et de la privatisation de l'espace public, est-ce que ça génère ben vous comme comme travail derrière quoi?
Alors déjà ouais, c'est ça, c'est que nous en fait on a effectivement le spectacle qu'on est en train de faire part de ce sujet-là, la privatisation de l'espace public.
D'accord. Ouais.
Et il est né d'un reportage qu'on a regardé il y a un ou deux ans, là, qui s'appelle « Mainmise sur les villes », qui était un truc d'Arte, et qui justement traitait ce sujet-là, là, comment l'aménagement des fois des villes commence à être délégué au privé et tout ça, et les incidences que ça peut avoir, bah, évidemment, dans la régulation de tout ça, quoi.
Est-ce qu'il y a des exemples concrets qui pourraient
Bah là, du coup, je pense que après ça, on a commencé à aiguiser nos trucs, et c'est là que je suis allé voir Muriel, qui, je pense, est bien plus à même d'en parler que moi, de tout ça. Néanmoins, nous, effectivement, on est confrontés souvent à des centres-villes. Alors, on est souvent engagés par des villes ou des associations, etc. Mais par contre, on est confrontés au milieu commerçant. Qui est parfois très favorable et parfois pas du tout. Et pour des questions dont on parlait tout à l'heure, là, effectivement, de location d'espace dans la rue et tout ça, il y a vraiment clairement des endroits où on n'a pas le droit d'être. Donc, si une personne nous dit « Ah non, là, il faut partir », finalement, on n'est pas chez nous. Réellement, juridiquement.
D'accord.
Donc, on est obligé de dégager.
Donc c'est des bars qui ont des terrasses privatisées qui vous disent on veut installer des machins, on veut servir là, merci d'aller un peu plus loin pour pas gêner notre clientèle, c'est cet ordre-là?
Ouais, par exemple, ouais. Alors souvent on a quand même un abord plutôt favorable en tant que musicien puisqu'on participe entre guillemets à l'animation d'une partie de la ville, mais pas toujours. Et ça peut être les bars, mais ça peut être aussi les commerces, les magasins de fringues, enfin les allées commerçantes qu'on voit dans les centres-villes, qui sont un peu toutes les mêmes aujourd'hui là.
Ouais.
Et donc là, on a un accueil plus ou moins favorable. Effectivement, bon bah on se plie à ce qui se passe. Mais après, l'avantage qu'on a nous, c'est qu'on est assez furtif et qu'on ne fait que passer. Donc finalement, on peut créer des petites capsules de d'amusement avec les gens qui sont là, d'un truc un peu poétique parfois, on peut même prendre la parole et dire un peu ce qu'on a envie, tout ça, l'espace de une minute ou deux, et ensuite, hop, on voyage, on part ailleurs, quoi.
D'accord.
Et du coup, nous, c'est ce qu'on essaye, là, en fait, je crois, dans le travail qu'on fait, l'improvisation dehors et tout ça, c'est un peu l'éloge de l'inattendu, quoi. C'est-à-dire, c'est attraper la rue avec les gens qui y passent et ceux qui y vivent, et puis exploiter tout ça et créer une espèce de moment un peu d'ébullition là-dedans, d'y construire des choses, de tracer des lignes, de créer des formes par terre, de s'amuser, de jouer un morceau de musique, de voilà.
Et est-ce qu'il y a un espace urbain qui vous est plus ou moins favorable là-dessus? Est-ce que les petites villes, les grandes villes, certaines agglomérations, éventuellement en fonction de leur bord politique, vous emmène dans une direction ou dans une autre, ou vous mettre des bâtons dans les roues ou pas?
Ben non, je dirais que par contre, ce qui devient difficile aujourd'hui, c'est de le faire au débeauté. Ce qui était peut-être plus accepté il y a encore 10-15 ans, quoi. Voilà, parce que nous, encore une fois, quand on travaille, on est souvent engagé. Ce qui fait que les mesures sont prises à l'avance pour qu'on puisse faire notre travail tranquillement. Mais par contre...
Faut pas trop détourner Faut pas trop détourner les codes, quoi.
Non, puis en fait, c'est que, voilà, travailler dans la rue, nous, on a besoin d'abord d'y faire des spectacles, mais aussi d'y pratiquer pour créer les spectacles. Donc évidemment, quand on travaille, on demande plein d'autorisations à l'avance pour pouvoir aller explorer nos trucs et les tester directement dans la rue et avec les gens. Mais par contre, on voudrait le faire sans prévenir. Là, c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui de faire des trucs comme ça, quoi. On se le permet de temps à autre, mais enfin, la régulation, là, elle est aussitôt mise en branle, quoi.
Oui, donc il y a Malika qui veut réagir.
Justement, moi je me présente comme poète dans la rue. Pourquoi? Parce que j'utilise aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, un des moyens, puisqu'ils me sont apportés, comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Moi, j'ai ce plaisir de vouloir offrir mes écrits, c'est-à-dire en poésie. Et donc, en rencontrant dans l'espace public les humains, je leur propose, j'impose pas. Je ne demande ni un euro, ni une cigarette. C'est vraiment le plaisir, parce que je leur dis, le cadeau que vous m'offrez qui n'a pas de prix, c'est le temps de votre regard, et le temps de votre regard et de votre écoute qui n'a pas de prix et qui ne s'achète nulle part. Mais en même temps, comme je dis que ça nous aide justement à battre les murs, ouvrir les portes, installer les fenêtres, servant de ces moyens-là. Et donc, quand je vais vers les humains pour leur proposer, tout en tenant compte qu'ils ont le droit, que dans proposition, il n'y a pas que le oui, il y a aussi le non. Sinon, notre liberté est foutue. Parce que je leur dis, savez-vous que notre liberté, pour avancer, elle a besoin de ses deux pieds, du oui et du non. Ce qui nous permet de continuer d'être. Donc, et moi, je veux pas faire de mes écrits des voleurs et violeurs. C'est, proposer ne doit pas être imposition. Et il y a beaucoup qui sont ouverts dans l'espace public et pas à l'intérieur. Je rentre pas à l'intérieur du café, mais c'est juste qui, dans le trottoir, debout devant, pratiquement pas loin du passage, juste à la fin du passage piéton, quoi. Et il y en a qui disent oui. Et qui sont contents, et moi aussi, etc. Mais il arrive que les gens, comme le sous prétexte de protéger le client, il t'interdit, il intervient. Mais je dis, vous voyez comment leur regard, ils m'ont dit oui, ils sont en plein dedans. Non, moi je veux pas de poésie, etc. Mais je dis, je comprends très bien si pour leur donner un coup de main, parce que je les oblige à me donner un euro, et surtout je les oblige à entendre un de mes écrits, un poème, là je comprends, mais là ils ont dit oui. Et là on se rend compte que on est dans l'espace public, pourtant le client, il paye sa boisson et tout ça. Je généralise pas, il y en a qui réagissent, qui disent, vous voyez bien, elle est en train de nous offrir un poème. Eh ben, par peur, ils disent oui, il est chez lui. Alors moi, je pose la question, comme un café, à partir d'où le propriétaire du café, il est chez lui, et à partir quel espace où le client, il est... C'est pas pareil quand tu reçois quelqu'un chez toi, mais voilà, enfin je me suis perdue avec ça. Mais
c'est très concret.
Mais il y en a d'autres qui m'ouvrent, comme par exemple Antipode. Et, il y a longtemps qu'on t'a pas vu, je vais un peu partout, mais c'est juste pour passer des messages.
La péniche,
je t'assure. Et puis vers le Bastring, avec des lieux là qui sont tellement contents, qui me disent, c'est rare que des gens viennent vers nous pour nous offrir des poèmes. Ils se lèvent, ils m'embrassent et tout ça. Et moi, je n'oblige pas. Et c'était pas pour faire de l'argent, pas du tout. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ouvrant nos portes à tout ce qui nous enferme pas.
Alors il y a cette question des terrasses, et il y a aussi la question de ce qu'on disait tout à l'heure sur notamment la place de la voiture, et ça rejoint peut-être plus largement ce qui est devenu peut-être, c'est une hypothèse, mais l'espace urbain, qui est souvent un espace de cheminement ou qui nous sert à aller d'un endroit à l'autre, et sur lesquels pour les artistes c'est un peu compliqué, parce que les gens qui sont dans cet espace sont pas là, sont là pour aller d'un point, utilisent cet espace pour aller d'un point à l'autre, et ça c'est aussi, j'imagine, un obstacle, ou du moins un challenge d'aller essayer de les saisir, quoi.
Alors ça, je dirais que ça commence à être un peu historiquement daté, en fait, comme conception. C'était typique de l'urbanisme moderne, où on faisait justement des espaces avec chacun une fonction attribuée, et puis du coup, l'espace public, c'était ce qui restait, en fait, ce qui n'avait pas de fonction, donc on appelait ça l'espace libre, par exemple, justement, à cette époque, plutôt que l'espace public. Et puis, je dirais que il y a eu beaucoup de critiques de ce type d'urbanisme hors sol, pas intégré, pas relié. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un mouvement de critique de la place de la voiture qui est assez dominant. Enfin, que moi, j'entends beaucoup dans les médias, j'entends beaucoup... Et la mairie de Paris, d'ailleurs, elle a mis en place, pas de manière particulièrement précoce, mais quand même, elle a mis en place une politique vélo, une politique sur les places, une politique sur la marche. Donc, on a une volonté de réinclure le piéton dans les réflexions sur la ville, qui est très nette, qui se manifeste à des degrés divers selon les villes, mais qui est, je dirais, un peu consensuel aujourd'hui, et qui permet justement certains espaces d'expression, notamment artistique, Alors là, on a parlé des musiciens, des poètes. Il y a aussi, du coup, les street artistes qui font partie, justement, de toute cette vague de réappropriation des espaces publics par les pouvoirs publics et certains usagers qui sont, du coup, de nouveau considérés comme légitimes, comme les musiciens de rue ou les poètes de rue, par exemple.
On a commencé à l'aborder sans le dire, le thème des indésirables dans la ville. Qui sont-ils? Pourquoi on... Qui met en place ce système d'indésirables? Comment se traduit-il concrètement dans le quotidien? C'est quelque chose que on a commencé à évoquer hors émission et qui est quand même intéressant à savoir que derrière cette appropriation, il y a des gagnants, mais il y a aussi des perdants.
Alors moi je suis partie du terme indésirable en fait au départ parce que c'est un terme qu'on utilise en fait dans les documents internes à la RATP et à la SNCF. Et donc il y avait des chercheurs qui attestaient de l'usage de ce terme dans des documents internes. Donc moi j'ai un peu pris le parti de dire OK, on va voir c'est qui. Et donc j'ai pas travaillé uniquement sur les espaces de transport, j'ai moi aussi cherché à travailler plutôt sur les espaces publics extérieurs, même si j'ai travaillé sur le métro. Et donc à la mairie de Paris, on trouve pas du tout de formulation aussi explicite de qui seraient ces indésirables. Donc mon pari de thèse, c'était un peu de dire, par contre, il y a des dispositifs, des mesures que prennent les pouvoirs publics qui nous permettent d'identifier qui sont les groupes indésirables, parce que justement, c'est eux qu'on cherche à évincer de l'espace public. Donc moi je me suis intéressée à plusieurs cas pour montrer qu'il y avait des régularités, c'est-à-dire des groupes qui étaient systématiquement considérés comme indésirables.
Lesquels par exemple ?
Et alors évidemment on retrouve des figures classiques de la déviance, les groupes des personnes sans logement, donc qui sont très variés et qu'on appelle habituellement les SDF, les personnes qui se prostituent, ceux qu'on appelle les bandes de jeunes notamment, et puis ceux qu'on appelle les Roms, qui sont, je dirais, quatre grandes figures qui réactualisent en fait des figures de la marginalité qui sont pas nouvelles et simplement qui vont les réactualiser à travers toute une série de dispositifs qui cherchent à les évincer des espaces publics. Donc par exemple, on implante des toilettes publiques, mais on va s'assurer qu'au bout de 20 minutes, qui sont gratuites à Paris, hein, donc contrairement à beaucoup d'autres villes où on les rend payantes, à Paris, on a mis des toilettes publiques gratuites pour tout le monde. Mais par contre, on a mis un système d'alarme pour être sûr que les toilettes, elles seraient utilisées que 20 minutes, pour être sûr que ni les personnes sans logement, ni les personnes prostituées qui cherchent à faire une passe, ni les personnes qui se droguent puissent détourner ces objets de la fonction qu'on cherchait à leur attribuer.
Et du coup, que faire, quoi ? Parce qu'on voit les aspects positifs. On voit les aspects négatifs. Comment trouver ce juste milieu? On parlait des toilettes publiques, c'est aussi bien que les personnes puissent y avoir accès. Et quel est l'espace public à attribuer pour améliorer ce mode de fonctionnement? Alors j'anticipe un petit peu sur la troisième partie, mais peu importe, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des pistes là-dessus?
Alors, ça dépend un peu des objets. Les toilettes publiques, par exemple, c'est des objets qui coûtent très cher à la collectivité. Donc, dans le débat, il y a aussi cette question du coût pour la collectivité de l'implantation de ces objets. Mais par exemple, sur les bancs, moi, c'est une question que je posais aux gens que j'interrogeais. Mais alors, si vous devez enlever le banc parce qu'il y a une personne qui dort dessus, pourquoi est-ce que plutôt que d'enlever le banc, on n'en mettrait pas un autre à côté? Et, en fait, ce qu'on vous répond, c'est, il y en aura un autre de sans-abri qui dormira à côté. Donc, il y a une espèce de peur un peu irrationnelle de la contagion qu'on entend aussi parfois dans les discours sur les appels d'air avec les migrants, etc. Cette idée que forcément, il faut nettoyer parce que sinon, ça va appeler d'autres usages encore plus indésirables et que ça va concentrer. Donc, moi, je pense qu'il faut pousser pour que justement ce soit légitime de réclamer des bancs. Et il y a d'autres groupes minoritaires qui ne sont pas les personnes sans logement, qui ont besoin des bancs. Les personnes âgées, par exemple. Et donc, dans un des cas sur lesquels j'ai travaillé, le Conseil des seniors, 10e, est très actif pour justement réclamer qu'on puisse remettre des bancs, parce que c'est bien gentil d'enlever les bancs pour les sans-abri, mais les personnes âgées, quand on monte une pente, on a besoin de se reposer. Et qu'en excluant les sans-abri, on exclut aussi toute une série d'autres groupes.
Alors Gwen, je voulais poser la question sur cet espace. Comment cet espace qui pour vous peut-être quand il est privé par exemple de la circulation, ce qu'on parlait tout à l'heure, finalement devient un terrain de jeu plus simple, plus agréable avec potentiellement plus d'interaction avec les participants, et dans le même temps, on voit que certaines parties de la population est exclue à la fois de l'espace public, mais du coup, finalement, de l'offre culturelle qui est proposée, quoi.
Alors, je sais pas si c'est ça que je me suis peut-être mal exprimé, que dans un territoire propre et entre guillemets nettoyé et donc un peu privé, c'est plus agréable pour nous, je crois pas. J'allais dire justement.
Oui, non, je parlais pas de ça, mais en fait, parce que avant l'émission, par exemple, on parlait de la place de la République à Paris, donc enfin voilà, c'est un exemple très parisien, mais
ouais.
où finalement la voiture a été retirée quelque part, et une partie de la population va trouver ça très bien. Et vous-même peut-être dans l'exercice d'une manifestation, ce sera beaucoup mieux que ce que c'était avant. Par contre, il y a toute une série de la population qui a été définie comme indésirable, qui a justement été finalement marginalisée sur la place, voire retirée, quoi.
Ouais, alors du coup nous, en fait, je pense que quand je disais que la bagnole prend une grosse place, là, c'est un truc un peu de citoyen, n'importe qui peut se rendre compte de ce truc-là. Après, nous, c'est quand on a commencé à étudier un peu le son dans la rue qu'on s'est particulièrement rendu compte de ça, en essayant d'écouter attentivement la composition du son urbain à Paris, par exemple, à des endroits différents. Mais par contre, nous, ça, c'est plutôt, une fois de plus, un truc qu'on transforme en accessoire de jeu. Et du coup, on essaye d'avoir des territoires variés pour aller travailler et pour jouer. On essaye nous, quand on fait un spectacle, on repère à l'avance des espaces pour leurs caractéristiques, soit d'architecture, soit d'espace, au contraire, d'intimité, mais aussi parfois pour le côté intéressant d'un quartier, quoi, où justement il y a du passage et tout ça. Et du coup, c'était pour finir peut-être le truc de tout à l'heure, mais pour nous, jouer dans la rue, finalement, c'est aussi jouer avec les gens, quoi, les gens qui passent. Et comme disait Malika, je crois que c'est jamais gagné, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on aime là, c'est que personne n'est obligé de venir le voir, ce spectacle. Et que lui-même est perméable à ce qui se passe autour, puisqu'il peut être interrompu à tout moment par un bus. Et c'est ça le jeu. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Au contraire d'être dans un théâtre, où du coup, pour là, c'est exclusivement ce qu'on produit qui va être intéressant.
Que les contraintes, en fait, deviennent des appuis artistiques.
Complètement. C'est même, c'est tout l'enjeu est là, quoi. C'est de jouer. En fait, nous, plus on avance dans notre travail, moins on cherche à venir poser un spectacle écrit et fini à un endroit. On cherche évidemment à avoir un spectacle qui se tienne et qui soit en quelque sorte efficace. Mais on essaye d'être de plus en plus réactif pour rendre le spectacle, réellement vivant, quoi. Mmh. C'est-à-dire, perméable à l'environnement, et du coup, si on est battu par un événement très fort qui peut arriver dans la rue, il y en a plein, des événements très forts, et du coup, là, c'est ce qui nous fait marrer, nous, c'est de savoir exploiter ce truc-là et de le mettre en valeur, d'en profiter, quoi. Et du coup, d'essayer de regarder un peu la rue autrement, un peu comme un spectacle, avec des entrées-sorties, des événements en permanence, des trucs qui sont un petit peu en dessous et des fils qui s'arrêtent jamais, tout ça, d'un peu de cerner les dynamiques, quoi, qui y a dans l'espace public. Et donc, voilà, et de profiter de toute cette variété d'événements qui peut devenir un peu poétique ou drôle si on arrive à s'y glisser un peu finement, quoi, ce qui n'est pas toujours facile, hein, mais voilà.
D'accord, ouais, très bien. Du coup, on va faire la transition avec Malika qui va nous... et avec la place de la République, hein, puisqu'on d'habitude on fait une pause musicale à cette heure-ci, mais on va faire plutôt une pause poétique.
Voilà, sur la nuit debout qui s'est passée à Place de la République à Paris, quoi. Pour moi, parce qu'on me les informations après j'ai dit mon poème, les informations parlent de la violence de la nuit debout, comme si la violence elle n'existait pas avant et qu'elle continuait pas après. C'était une tentative, comme je disais, la nuit debout, c'était une tentative, comme les chercheurs tentaient de trouver un des remèdes pour combattre le microbe qui s'installe dans le corps de l'humain. Là, la nuit debout, pour moi, c'était, pour nous, quoi, c'était un peu chercher un des moyens, une prophylaxie qui entrave ces microbes qui s'installent dans le mental de l'humain, faute justement de rencontres, qui fait de lui un robot, un mouton de Panurge, et nous, un danger, y compris pour lui-même. Et, je commence mon poème. Debout de nuit sur la place de Paris, on accueille autrui sans a priori. On écoute ce qu'il dit de ce monde qui se fait sans lui, de ce monde qui se fait sans lui. De nuit en nuit, ces graines des récits, fait de soucis d'ennui et d'envie aussi. Et d'envie aussi. On échange nos vécus, on partage nos fragments de vie. L'autrui n'est plus alors autrui, il y a du nous en lui. Avec lui, on mûrit, on grandit. C'est le prérequis pour redonner sens à notre vie. De nuit en nuit, sur la place de Paris, comme entre amis. On parle aussi bien du salaire que de l'employé et l'employeur. Cette alliance des contraires déjà décrite par ailleurs. L'un esclave et producteur est de plus en plus hagard. Et l'autre ascète mais avare et de plus en plus bavard. Tous les deux sont tributaires de ces appétits d'actionnaires qui mettent en demeure tout pouvoir de les laisser faire. Sinon ils s'installeront ailleurs. Et puis, il y a aussi des nuits, même assoupies. Un même rêve nous unit, maître et apprenti. Et pourquoi pas un jour, sait-on jamais, rêvant un instant, des jeunes employés-employeurs partageant les mêmes valeurs, bâtisseurs et prometteurs d'une nouvelle ère, ni territoire ni frontière, là où sévit la misère et pour un monde bien meilleur, l'enfer à jamais banni de notre planète Terre, la mère nourricière qui se meurt, pleure et se terre. Et puis il y aura bien un jour une nuit sur la place de Paris, certains l'ont prédit, d'autres promis, des jeunes artistes et poètes s'inviteront à la fête, des voix et des plumes toutes prêtes, et pour l'étendard, et pour le manifeste, et pour l'étendard, et pour le manifeste. Voilà comment j'ai vécu la nuit debout et comment on l'a vécu aussi.
Qui est un très bel exemple de réappropriation de l'espace public avec place rénovée. Et c'est donc merci pour ce poème.
C'est pourquoi je comprends pas quand on veut combattre toutes ces microbes qui s'installent dans le mental et qui fait de nous et qui nourrissent les extrémistes. Il y a une différence entre servir une lutte et se servir ou servir une médecine, etc. Et d'autres se servent de la patrie mais servent pas la patrie, d'autres de la religion, etc. Et donc ces possibilités là, c'est une manière, c'est un des moyens qui entrave les naissances des armes qui tuent parce que la peur, t'es obligé de te protéger avec une arme auquel tu vas perdre ton temps à fabriquer une arme qui bouffe ta vie et ton temps, mais qui ne résout pas ton problème parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui arrive avec. Alors, utilisons tous, ouvrons nos portes à tout ce qui nous enferme pas. Voilà.
Très bien. Bah, ça fait bien la transition sur la suite de l'émission puisque on voulait aborder pour finir des choses justement positives, quoi, de l'ordre de comment les citoyens peuvent se réapproprier cet espace. Donc il y a eu cet exemple de Nuit debout. Est-ce que Muriel, peut-être tu peux parler de certains exemples ou...
Oui, je vais d'abord juste rebondir sur Nuit debout parce que c'est vrai que après avoir quand même travaillé quelques années sur les dispositifs des pouvoirs publics, je trouve que c'est ça la première piste. La première piste, c'est de se dire de pas attendre en fait qu'on nous donne une place clé en main, qu'on nous donne un projet pour de lecture avec les enfants sur les espaces publics. En fait, de pas attendre qu'on nous dise quoi faire dans les espaces publics pour les réinvestir. Et je dirais que je suis quand même assez méfiante, même si je vois qu'il y a des expériences innovantes et tout, je suis quand même assez méfiante de tous les dispositifs encadrés. Et je pense que le premier acte de la réappropriation, c'est justement d'essayer de le faire soi-même. Et je pense que à ce titre, les collectifs d'artistes, les artistes individuels aussi, mais c'est des personnes qui permettent justement reproduire de l'espace public, y compris dans des conditions très difficiles, avec du mobilier dissuasif, l'espace public, c'est pas juste l'espace bâti, c'est aussi l'espace qu'on rend public, nous tous ensemble.
Des squats, par exemple?
Et des squats aussi, voilà, des squats. Alors, il y a des squats d'habitat, il y a des squats d'artistes qui sont plus ouverts au public. Les squats d'habitat, c'est un peu compliqué, ils doivent se protéger, etc. Donc, leur but, c'est plutôt de rester discret pour pas se faire évincer. Les squats d'artistes, il y a souvent une dimension publique aussi, de l'objectif d'ouvrir justement aux habitants du quartier, aussi à d'autres public et de leur faire découvrir un petit peu peut-être des milieux.
Excuse-moi de te couper, mais bah non. Par exemple dans La Nuit Debout, tout le monde se parle. Avant, personne, que tu sois un intellect ou un manuel, une femme, handicapée, noire ou blanc ou quoi que ce soit, commençait à se parler justement, la rencontre. Je trouvais que c'était vraiment, et je ne comprends pas comment ceux qui veulent protéger le pays, qui se disent les défenseurs de la nation, n'exploitent pas ces choses-là qui permettent justement aux humains de se rencontrer pour qu'ils ne s'enferment pas dans leur ghetto d'identité, de classe et de sexe, mais saisir que nos différences, ils sont là pour nourrir notre commun, c'est-à-dire pour élargir nos regards sur un point de vue commun, pour essayer de donner des réponses les moins négatives ou les plus positives qui serviront notre vie, ou peut-être plusieurs solutions à un problème qui se pose à nous. Et ça, c'est grâce à la conjugaison du jeu de chacun de nous pour faire un tout dans nous afin de trouver notre humanité. Mais si on privatise l'espace public et des tas de trucs, comment veux-tu que l'humain retrouve son humanité pour aimer l'humain?
Et c'est, c'est une bonne question, effectivement, la privatisation, l'espace public. Gwen, est-ce que vous attendez quelque chose de la ville, de cet espace qui vous donne des nouveaux outils ou,
Non. Je crois que c'est l'inverse. C'est... Moi, ça, en écoutant Malika et puis Muriel, il y avait deux trucs qui me venaient depuis tout à l'heure. Là, c'est la première chose dans le spectacle. On se dit, au contraire, en tant que citoyen, je me dis moi, l'important, c'est d'essayer de favoriser pour soi-même, hein, j'entends, des activités non payantes dans la ville, à savoir se promener, rien que ça déjà, et puis regarder, et puis ensuite aller se faire un pique-nique avec sa propre bouffe qu'on a amenée sur une place. Enfin, je veux dire, par des tout petits gestes comme ça, je crois que créer une possibilité éventuellement de rencontre, c'est d'abord s'arrêter, quoi. C'est s'arrêter quelque part. Parce qu'évidemment, si on ne fait que circuler, c'est moins facile de... qu'il y ait une prise, quoi.
Mais c'est un bon point. Et les places qui sont réaménagées, justement, essayent de couper la circulation pour ouvrir l'espace, créer des ponts, parce que on le voit, hein, juste une route peut empêcher d'accéder à un bois, même si s'il y a qu'un passage un passage piéton à franchir. Est-ce que ça vous parle,
cette ouverture? Puis là aussi, je voyais, parce que donc j'étais à Paris il y a pas longtemps, moi je suis pas parisien, mais il y a par exemple près de la porte de la Villette, là, une espèce de alors, on va pas dire un bois, mais disons qu'il y a un grand espace herbeux avec des arbres.
La forêt nuée.
No Man's Land. Alors, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais un truc vraiment sur lequel personne ne fait rien. Donc, je me dis que ce genre d'endroit, là, c'est, voilà, se dire, tiens, bah voilà, il fait beau, j'y vais, je pique-nique, je m'arrête un peu, quoi. Et puis surtout, disons que je le privatise pour moi le temps d'une heure, mais voilà, ça, je trouve ça marrant. Et puis sinon, concernant mon activité, moi, de musicien, donc forcément, on a notre activité professionnelle, qui fait qu'on doit en vivre et tout ça, mais aussi, essayer d'aller jouer et travailler en ville pour rien, aussi.
Oui.
Et parce que je me souviens, il y avait un conteur de rue là qui s'appelle Jean-Georges Tartare et qui disait à des gens comme ça, à son public, il disait approchez, approchez, approchez. Et quand les gens sont tout près de lui, il leur dit parce que c'est entouré de public que l'artiste accède à la sécurité sociale. Et du coup, je trouvais que c'était une image assez marrante parce qu'on a vécu ça plusieurs fois. À partir du moment où on commence à réunir du monde autour de nous, finalement, ça laisse une possibilité d'action vachement moindre à la police, par exemple. Et voilà, par des petits gestes comme ça, je crois, venir jouer un peu de musique ici, venir s'installer là, sans forcément être dans une terrasse, en consommant. Je pense que c'est plein de petites choses qui peuvent permettre... parce que du coup, par exemple, consommer, c'est un truc que tout le monde ne peut pas faire. Mmh. Donc, si on commence à aller dans des espaces où tout le monde peut être...
Payer l'entrée, déjà, ou faut payer des consos.
Et surtout dans la ville, où les consommations ont tendance à ne pas favoriser à sortir.
Oui,
je crois que c'est pas le projet de toute façon. Ouais.
Il y a Muriel qui voulait rebondir.
Oui, je voulais juste parce que je t'entendais dire ça, le public comme une sorte de protection. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans mes enquêtes. Donc, une des autres choses sur lesquelles je travaille, c'est les musiciens dans le métro. Et en fait, une des leurs protections principales, c'est le fait que les voyageurs interviennent en fait quand les agents essayent de les verbaliser ou de etc. Et donc, ça produit un contre-pouvoir qui est extrêmement important pour les musiciens. Alors bon, les policiers ou les inspecteurs de la RATP les obligent d'arrêter de jouer, mais c'est tout ce qu'ils font. Ils leur mettent pas d'amende, parce que en fait, finalement, ils sont devenus désirables pour le reste du public Et donc ça bloque en quelque sorte l'indésirabilité que voudraient édicter les institutions et qui demeure quand même dans les mains des citoyens et citoyennes, il me semble.
Malika ?
En parlant de la Villette, je trouvais qu'à un moment donné, l'idée qu'il y ait pendant les vacances le film en plein air, ça permettait aux gens, gratuit, etc., ça permettait aux gens de venir petit à petit. Le début, c'était effrayant parce que les gens, ils sont coincés dans leur classe. Je vous apprends rien par rapport aux bâtiments où ils habitent, les logements selon leurs moyens, etc. Et là, dans ce, comme quoi l'art et la culture, elle réunit les gens dans leur diversité. Et tu vois petit à petit, tu es habitué de voir les vieux, tu es habitué. Et les gens repartaient pas effrayés. J'ai cru que j'étais dans une autre planète, la paix, suite à ces projections. Et puis à un moment donné, ils ont décidé que ça soit payant. Alors du coup, moi j'ai milité, ils me disent oui, mais ça ferme les cinémas. Je dis mais grâce à la rencontre de la culture qu'on a envie d'y aller après une pièce de théâtre, voir des films, etc. Et à un moment donné, une année, ils ont fait payant. Du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance de partir en vacances pour ce. Et moi, pourquoi? Parce que j'allais là-bas pendant que les gens y sont assis. Je vais vers eux, je leur dis, excusez-moi, je suis pas un intrus, juste une imprévue. C'est Madame la Poésie qui m'envoie vers les humains parce qu'elle m'a dit autrefois c'est eux qui allaient vers elle. Maintenant, avec le manque de temps, d'argent, etc., elle s'était dit comment faire, mais comme elle sait que l'appétit vient en mangeant, je leur ai dit, elle a décidé de venir vers les humains en leur ajoutant. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue chez moi, elle a tapé à ma porte, et elle m'a dit, est-ce que tu veux bien aller vers les humains, offrir un de tes poèmes? Et face à un tel plaisir, je dis, qui refuse? Et les gens, toi, ils commençaient à se parler. D'autres qui m'ont dit qu'on n'aime pas la poésie, j'ai respecté parce que je leur ai dit, juste, vous la rencontrez dans des mauvaises conditions. Une classe surchargée, un temps réduit. Qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur? Quelle note? Il y a de quoi ne pas aimer puisque vous ne l'avez pas rencontré. Mais laissez-moi. Et puis quand ils m'ont vu face à d'autres qui m'ont dit « oui, on veut entendre le poème », je vois le corps des autres humains qui étaient fermés à la poésie en train de m'applaudir. Je leur ai dit « vous voyez, je ne me suis pas trompée, vous ne l'avez pas rencontré, vous avez cru ».
La rencontre de la poésie dans l'espace public, c'est à peu près le mot de la fin puisqu'il est 21h28 malheureusement. Et donc merci beaucoup à nos invités, merci à Gwen, merci à Muriel, merci à Malika.
Et merci à toi.
Merci à vous, trop bien, ouais.
Et voilà, des belles rencontres ce soir. Et puis juste un petit mot quand même, parce que la radio est un peu en difficulté suite à finalement la politique du gouvernement de limiter supprimer carrément les emplois aider, et ben ça pénalise les associations, et nous sommes une radio associative et qui potentiellement pourrait fermer puisqu'on n'aurait pas les moyens de payer les personnes qui sont permanentes ici. Donc voilà, pour vous mobiliser, c'est sur le site de rfpp.net et vous pouvez donner de l'argent un peu si vous pouvez pour soutenir la cause des radios associatives.
L'objectif est que Londres reste dans notre espace public et dans la cité.
Donc vous pourrez réécouter l'émission sur le site web de la Fondation Copernic et les modes d'emploi.net, mode-d-emploi.net. Et donc le prochain numéro de mode d'emploi animé par la Fondation Copernic, ce sera le vendredi 26 janvier. Bonne soirée à toutes et à tous. On finit par mop, je crois.
Bonne soirée, en attendant, appropriez-vous l'espace public.
Et protégeant Paris Pluriel, parce que c'est elle reçoit pas l'avoir mais l'être, c'est elle est la parole des 100 voix, et moi je fais même pas partie, et vous voyez la porte est ouverte n'importe. Donc en la protégeant, on se protège.
Merci Malika, merci à tous.
Merci à tous.
Bonne soirée.
Au revoir.